Vous êtes bien sur Libre, une émission du collectif Atarik. Aujourd'hui, on vous propose une discussion avec le rabbin Gabriel Agaï, un homme de foi et d'action, un artiste, un mystique, qui est ancré dans le réel, et qui nous a fait l'honneur de nous recevoir en novembre 2023 dans son herboristerie du 20e arrondissement à Paris. On a pu aborder librement avec lui la manière dont il perçoit le judaïsme comme un message libérateur, en lien avec les autres monothéismes, mais aussi une manière plus implicite de ce lien perdu entre musulmans et juifs, en particulier dans le monde arabe. À ce propos, on vous invite à écouter l'émission Parole d'honneur, consacrée à cette question entre Ouyabou Telja et Aïcha Azoulay, qui offre des perspectives réjouissantes de paix. On invite enfin tous les humanistes à penser à Gaza et aux Palestiniens alors qu'un génocide est en cours. Notre impuissance ne doit pas se transformer en résignation. Aussi, chacun doit pouvoir prendre position par la pensée, par la parole ou par les actes. On pense à la campagne BDS en particulier. Voilà, très bonne écoute à vous et à très vite.
On a un autre verset qui dit Loqam Israël qui est Moshe Ot. Il ne se lèvera pas de prophète en Israël comme Moïse, mon serviteur, mais il y en aura d'autres. Il y aura d'autres ailleurs. Il y aura d'autres prophètes. Chaque famille humaine, elle a des personnages qui sont à la hauteur de Moïse, donc des législateurs. Or, le capitalisme est basé sur ça, c'est incroyable.
Ouais.
Tu vois, il est basé sur l'argent. Donc c'est déjà une convention sur la spéculation de sur l'argent, sur la dette. Si tu veux mettre des étiquettes modernes dessus, elle est rouge et noire. C'est-à-dire c'est de l'anarchisme et du socialisme. L'anarchisme parce que on a confiance en l'être humain pour s'auto-organiser et c'est notre responsabilité. Et on n'aime pas les structures parce que les structures elles vont se pervertir. Donc on est les structures, elles n'ont de durée de vie que pour l'utilité qu'elles ont.
D'accord.
Et on ne va pas idolâtrer la structure. Première chose.
C'est une formulation du mandat impératif, quoi.
Alors la figure de Jésus, comme la figure de Mohammed, ce sont des personnages qui sont venus postérieurement. Donc après, c'est laissé au discernement des rabbins, des choses comme ça. Alors d'où dans le judaïsme, il y a tout l'éventail. Hein.
Ouais.
Surtout que le christianisme a produit des saints.
Moi, ouais, ça, ouais.
Moi mes maîtres, ils m'ont toujours dit, je veux savoir si une religion, elle est authentique.
Il
y a la providence, elle produit des saints, elle produit la sainteté.
D'accord,
si elle produit la sainteté, khalas. Donc, le roi que j'aurai sur vous, c'est pas un roi de toutes les nations, c'est un roi spécial. C'est pas un despote. C'est pas un despote pyramidal, tu vois. C'est quelqu'un qui est contraire, qui à la base, il porte toute la nation. C'est lui qui va nourrir tout le monde, c'est lui qui va aider tout le monde. Après, tu sais pas comment les choses vont s'organiser parce que si encore une fois l'humanité s'organise, la crise elle passera sans problème, comme l'eau sur les plumes d'un canard, parce qu'il y aura de l'entraide, il y aura du partage, il y aura des trucs. Donc la température elle peut augmenter, le niveau de la mer, le truc machin, on est ensemble, on peut s'en sortir. Mais c'est vraiment tous ensemble, l'humanité ensemble, et voilà, laisser toutes ces structures d'oppression et...
Bonsoir.
Shalom Gabriel, et merci pour l'invitation à l'herboristerie.
Merci, alors ça fait plaisir. L'herboristerie, ça doit être un lieu d'accueil, on peut faire des petits salons, on peut faire des choses. Donc déjà chez nous, traditionnellement, on dit « Shalom Aleichem, Borahmanoim Virkato », que la paix, la miséricorde et la bénédiction du Seigneur soient sur vous tous. Donc ça fait plaisir, et on est en plein dans ce pourquoi cet herboristerie est là, parce que c'est non seulement un lieu pour être au service des gens, tu vois, parce que nous on est une herboristerie solidaire, c'est-à-dire on appartient à une association, mais et donc dans le cadre de la vie de quartier, voilà, c'est important de recevoir des gens. Moi, souvent l'après-midi, des gens ils viennent passer boire des tisanes, passer l'après-midi ici, discuter, interagir avec les clients, et donc il y a toujours, voilà, ce côté aussi. Vie associative, tu vois, ouais, rencontre. Et donc ça participe de ça, donc je suis super content de vous avoir ici.
Super.
Et puis je pense que ça va être intéressant, tout ce qui va sortir de notre conversation.
Ouais. J'espère bien. Alors on est dans le 20e ?
Alors on est dans le 20e, ouais, donc on est dans le nord de Paris. Ouais. C'est un quartier à l'origine très populaire, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de QPV, quartier politique de la ville, des logements sociaux. D'accord. Donc voilà, c'est très mélangé encore, malgré tout, malgré le fait que petit à petit ça se sent bourgeoisie, si tu veux. Mm. Mais on est quand même une grosse partie de la population qui est quand même socialement très 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 populaire. Mm. Beaucoup d'anarchistes, il y a beaucoup ici de petites associations anarchistes. Mm.
Des squats
et puis même au niveau solidaire, au niveau social, des soupes populaires, des machins, tu te vois là, on fait beaucoup de troc, beaucoup de choses. C'est très intéressant, c'est vraiment un village le 20e à ce niveau là quoi. Il y a des petits villages, ouais.
Et on a deux pas du Dorothy par ailleurs, qui est un café solidaire catholique qui est vraiment ancré sur la théologie de la libération.
Tout à fait, et c'est juste au coin là-bas, plus bas.
Ils auraient voulu venir ce soir et ils s'excusent et ils nous font passer le message qu'ils aimeraient beaucoup aussi venir parler avec toi.
Ouais. Eh ben avec plaisir, parce que nous, on doit réseauter, c'est ça, moi j'appelle ça l'effet Lilliput. L'effet Lilliput, c'est quoi? C'est Gulliver, tu as le gros système, le Frankenstein qui dirige le monde, et nous, on a des petites initiatives indépendantes, et c'est les petites Lilliput comme ça qui réseautent et qui font chuter le gros Gulliver. Donc vraiment, c'est le contraire de l'effet Gulliver que les économistes ont créé, tu vois. Non, c'est l'effet Lilliput. Voilà, c'est ça, c'est la résistance.
Et du coup, vous faites avec l'association, tu as dit rouge et noir, et vous faites aussi...
Nous, on est très rouge et noir, c'est rouge politiquement et noir socialement, nous, ce qu'on fait, c'est on est dans le solidaire et dans le social. Donc l'association, c'est elle qui a repris l'herboristerie, dont l'ancien herboriste est parti à la retraite. Ça fait 2 ans et demi qu'on est là. Et en même temps, donc, quand on a un petit peu d'argent, donc on a des activités qui engrangent de l'argent par des dons. Hein, et moi, je m'occupe du pôle repas solidaire. Donc moi, je m'occupe de dépenser l'argent de l'association, tout simplement. Ouais. Donc ici, les dividendes qu'on peut faire aussi à l'herboristerie. On fait des maraudes alimentaires, on fait des grands repas... dans des centres d'hébergement d'urgence, des CHU sur Paris. Ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on fait ça. Donc, on travaille beaucoup avec le Secours catholique, l'Armée du Salut et puis d'autres structures de centres d'accueil d'urgence sur Paris et la région parisienne. Voilà, donc on fait des repas entre... On a une cuisine volante, donc on intervient là où il n'y a pas de cuisine et on peut faire des repas jusqu'à 320 max, quoi. 300. On a des gamelles pour 300.
Par rapport à ça, tu disais on dépense les dividendes qu'on gagne, c'est-à-dire ce que tu gagnes ici, tu le dépenses
en... Oui, ça c'est on est une herboristerie solidaire, okay. Donc c'est-à-dire nous on est dans une structure capitaliste, si tu veux, donc on est bien obligé d'utiliser l'argent.
Oui, bien sûr.
Tu vois, mais l'argent qu'on gagne, d'abord déjà on prend des marges le plus minime possible de manière à être toujours populaire, tu vois, je veux dire, le but c'est d'être démocratique, de pouvoir être abordable par les gens. Et donc, une fois qu'on paye nos charges, qu'on paye nos salaires, qu'on paye les trucs comme ça, le reste c'est pour les activités solidaires et sociales.
D'accord.
Ah oui, le but c'est pas de gagner, le but c'est de gagner de l'argent pour le dépenser, et pour le dépenser socialement, tu vois, voilà, c'est pas l'argent. L'argent c'est un moyen, c'est pas jamais été un but. Alors là, vraiment, et non, on est de la résistance. Parce qu'ouvrir une herboristerie avec le Big Pharma, les choses comme ça, nous, on est dans la résistance, voilà. Et c'est vrai qu'ils nous ont interdit beaucoup de plantes, malheureusement, qui sont encore permises, par exemple, en Suisse ou en Belgique. Pas tout est interdit de la même manière ailleurs. En Italie, par exemple, l'herboriste du Vatican a toutes les plantes, qui sont les 50 plantes qui nous sont interdites ici. On peut les trouver là-bas avec le sceau du pape, tu vois, béni par le pape. Mais voilà, avec ce qu'on a comme plantes quand même, on arrive à avoir un bon éventail thérapeutique, quoi, pour se soigner la majorité des pathologies quotidiennes, quoi, ce pourquoi les gens viennent ici, quoi.
Ok, et alors je lis une fiche là, que tu es intervenu lors d'une conférence. Donc tu es rabbin. Tu es présenté comme rabbin orthodoxe.
Oui, alors je suis orthodoxe complètement. Orthodoxe, c'est-à-dire que c'est en pratique la foi de manière orthodoxe. Je suis complètement orthodoxe.
D'accord.
Mais tu vois, c'est. Alors pour ceux qui connaissent mon image, C'est vrai, pour, quand ils voient, quand ils s'imaginent quelqu'un d'orthodoxe et quelqu'un habillé en... ma mère, elle appelle ça les pingouins, donc c'est-à-dire en costume noir, chemise blanche, chapeau, borsalino, tu vois, genre les Lubavitch ou les trucs comme ça. Non, ça c'est un déguisement européen, ashkénaze.
D'ordonnance, quoi.
Voilà, donc c'est pas mon cas. Donc, c'est, on est, alors, les juifs maghrébins, traditionnellement, sont très orthodoxes, mais ils s'habillent avec les habits du pays dans lequel
du
ils...
Du quotidien.
Quotidien, tu vois, si tu vas dans une synagogue djerbienne, il y a beaucoup de gens très très orthodoxes, ils portent un jean, tu vois, dans la semaine, ou okay. Comme ça, ouais, je veux dire. Et puis moi, je porte, pour ceux qui me connaissent souvent, quand je suis en représentation, je prends une gandoura, une djellaba, tu vois. Donc, donc on casse bien les représentations que les gens ont, tu vois, d'un rabbin orthodoxe. Et même des fois, une fois, j'interviens de temps en temps par le SPIP, m'invite pour intervenir dans les centres pénitentiaires. Et alors, des fois, j'arrive en gandoura. Et on ne dit pas aux détenus qui je suis, tu vois.
Ouais.
Et donc, les détenus, ils rentrent.
Je pense que tu es imam.
Voilà. Ouais. Salam alaikum, wa alaikum salam, voilà. Khjbark, la baisse, akhrak. Et puis, alors, après, il dit, voilà, je vous présente le rabbin. Ah, quoi, rabbin? Bah ouais, c'est ça. Et ça permet de, tu vois, de déconstruire vraiment les préjugés que certains peuvent avoir sur les juifs, tu vois. Et ça m'est arrivé encore la semaine dernière, j'étais à la santé, on devait être trois intervenants, un prêtre, un imam et moi. Et l'imam était en retard, donc il n'y avait que moi et le prêtre. Et alors les détenus, ils ont dit, bon, bah, il y a déjà l'imam et le prêtre, tu vois, et on attend le rabbin. Non, c'est, bah, non, c'est moi le rabbin.
Une volonté d'acculturation, quoi. C'est...
Ah, complètement, ouais, ouais. Malheureusement, tu sais... Les juifs maghrébins ont été très très désémitisés à ce niveau-là.
Oui, c'est ça.
Et puis on leur a fait croire, et puis ils ont vraiment intégré ça, on leur a fait croire qu'ils étaient européens, tu vois.
Ah oui.
Donc si tu vois là, et d'où le problème en Israël aussi, voilà, je veux dire, c'est les mêmes qui ont été en Israël. Israël se prend pour un pays européen, tu vois, alors qu'on est au Moyen-Orient, on est une culture sémite. Tu vois, mais ils ont tout désémitisé, tu vois, de manière à être le moins oriental possible. Et d'ailleurs, ils participent à toutes les activités européennes. Okay. Je veux dire, Alash, comment dire, Yiddish, pourquoi?
Et du coup, tu as l'impression, à travers le CHU, à travers la radicalisation, de reconstruire des liens?
Alors, c'est ça le but. Le but, c'est de... Parce que les communautés juives et arabes et musulmanes, en Orient, ont toujours cohabité. D'ailleurs, les Juifs étaient là avant que l'islam arrive. Donc, quand l'islam est arrivé, il y a des familles qui sont restées juives. Il y en a qui se sont convertis à l'islam, donc de la même famille. Donc, il y a toujours eu cette conscience, pendant des siècles, d'être les mêmes familles. Et qu'il y a une branche juive et une branche musulmane. Et conscience qui s'est petit à petit évaporée, oubliée avec le temps, surtout avec l'arrivée de la colonisation, qui a utilisé les Juifs comme auxiliaires de colonisation, donc ils donnent
décret crémieux,
on donne la nationalité française aux juifs autochtones, et soudainement ils se trouvent détachés.
Qui l'a reçu dans un premier temps d'ailleurs.
Ah, les rabbins ont râlé, ouais, les rabbins ils ont senti ça tout de suite.
Ouais.
Ah, les rabbins, c'est des gens sages et intelligents, ouais. et ils comprennent les leçons de l'histoire, ils ont dit non, c'est mauvais.
Ouais.
Et l'avenir leur a donné raison. Donc,
ouais. Il y a une opposition à l'époque, un peu.
Oui, les rabbins toujours.
Non, même les gens en fait. Hein.
Beaucoup de gens, mais surtout les rabbins, les érudits, les gens, ils se sont dit, mais ouais. On n'est pas avec vous, nous on est autochtones.
Ouais.
Tu vois, Abdelkader al-Jazairi, qui est un grand résistant de l'occupation française, il avait deux très riches juifs qui l'aidaient, deux familles juives algériennes qui l'aidaient dans la résistance quand même, qui étaient dans la Smala, et qui s'occupaient, parce que les juifs avaient des connexions, tout ça, ils pouvaient lui avoir des armes et des choses comme ça à l'étranger. Donc voilà, c'est quelque chose qui est connu, là. Les juifs ont résisté à l'envahisseur.
Au même titre que leurs frères.
Exactement, je veux dire, pour eux, c'était des envahisseurs.
Juste quand même pour terminer, donc, t'es présenté comme aussi conférencier,
c'est le pédigré.
Alors, t'es linguiste, philologue,
paléographe, codicologue, herboriste,
cuisinier, on a vu tout
voilà,
à l'heure.
Chef cuisinier, poète, chanteur, poète.
Calligraphe.
Voilà, calligraphe. Ouais.
Donc, t'as aussi une sensibilité artistique, quoi.
Ouais,
très forte.
Ouais.
Alors on dit que tu as été formé à Jérusalem et à Boston.
Ouais, c'est ça. J'ai vécu la majorité de ma vie à Jérusalem, Yerushalayim, Philkots, donc avec des vieux rabbins. Moi, j'ai un des derniers des Mohicans, si tu veux, des derniers qui a été formé par des rabbins qui sont jamais passés par les institutions ashkenazes, si tu veux, européennes. Donc des vieux rabbins d'origine maghrébine, d'origine irakienne, yéménite, syrienne, perse, etc. Donc voilà, c'est vers eux que j'allais parce que c'est important de recueillir ces enseignements qui malheureusement ont eu tendance à se perdre. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un petit peu, c'est mon côté noir, tu vois. C'est-à-dire que les communautés juives ont toujours été auto-organisées. C'est la religion, en fait. La religion, elle te responsabilise en tant qu'être humain. Ouais. On n'aime pas les structures. Dès que la religion s'organise en structure, toute structure peut être pervertie. Et au lieu d'être au service des gens pour qui elle a été créée, elle devient après quelque chose, au contraire, un outil d'oppression, tu vois. Et on demande que les gens soient au service de la structure. Ouais, donc là, les rabbins, ils avaient compris. Non, ça, c'est parce que c'est la spiritualité. Les prophètes ont toujours été comme ça. Et nos rabbins le disent. Alors, il y a plus de 2000 ans, ils le disent dans un livre de la Mishnah, un traité de la Mishnah qui s'appelle Pirkei Avot, qui parle justement de morale. Et ils disent là-bas, Usnat Arabbanut, yani, tu haïras le rabbinat, yani le statut de rabbin, tu le haïras. C'est des rabbins qui disent, le statut de rabbin, il faut haïr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'établir en structure. Il faut rester au service. Les structures rabbiniques, elles ne doivent pas vivre plus que le rabbin. Ouais. Yani, le rabbin, il est là, il est reconnu, donc il va enseigner, etc. Il décède, on ne va pas regarder la structure. On fait d'autres.
C'est une religion par en bas, un peu.
Et nous, c'est comme ça que nos communautés, elles ont survécu en exil. Elles ont toujours été autogérées, voilà. Et on fait un consensus. Il y a le côté religieux, le côté économique, le côté associatif, etc. Voilà, tout le monde se retrouve. Et ça marche très bien. Le problème, c'est en Europe, c'est vraiment une mentalité pré-moderne, qui est devenu moderne et post-moderne de nos jours, mais tu vois, donc le modernisme en Europe, c'est vraiment, on est sorti de ce côté auto-organisé pour faire des structures. Dans les structures politiques, déjà, les pays se sont établis, et même donc, les structures juives, elles se sont établies en structure. Elles ont été obligées de se structurer, les rabbinats, les structures, la yeshiva, c'est-à-dire les académies rabbiniques, etc. Et donc, du coup, les consistoires et les rabbinats, etc. Et donc, du coup, c'est la manière dont le judaïsme s'est sauvé, si tu veux, s'est institutionnalisé. Mais le judaïsme non européen n'a jamais eu ce passage-là à l'institutionnalisation.
Où il a été domestiqué en gros par des autorités.
Et donc nous, nos rabbins, ils sont restés. Comment le rabbin, ça marchait à l'époque. Ben, le rabbin, il est là, il attend que les élèves arrivent, tu vois. Il n'a pas une école. Il est là, il est dans la maison d'études. Qui est la synagogue au moment des prières, mais en dehors, c'est la maison d'études. Il est là, les gens viennent, ils étudient un an, deux ans, dix ans, etc. C'est la communauté qui s'occupe de... Il n'y a pas d'inscription, de machin, de trucs, tu vois, c'est la communauté. Et au bout de tant d'années, l'élève, il est donc on lui donne un certificat, tu as étudié avec moi, toi, et puis voilà, c'est comme ça. Et donc ces rabbins, ces vieux rabbins non-européens, si tu veux, non-ashkenaz, ils étaient là, ils n'avaient pas de structure. Et donc, il fallait aller auprès d'eux, étudier. Et moi, je suis un des plus jeunes qui a fait cet effort-là, avant qu'ils disparaissent, tu vois, parce que maintenant, ils sont tous passés de l'autre côté.
Et question, justement, du coup, parce qu'on s'interroge pas mal sur le rôle des évêques dans les premières communautés chrétiennes, sur qu'est-ce que ça voulait dire l'imam au début, tu vois, quand on relit l'histoire de la Sirène, on s'interroge qu'est-ce que ça veut dire l'imam. C'est quoi pour toi dans le rôle du rabbin dans ces communautés autogérées? Soit, comment tu fais, soit comment tu le vois.
Le rabbin, il a un rôle spirituel. C'est-à-dire, le rabbin, il est là pour enseigner, donner une direction morale, déjà. Donc, si tu veux, c'est un petit peu le thermomètre de la moralité, au niveau de l'engagement des gens, et l'enseignant spirituel. Donc, il enseigne les pratiques de la religion, pour ceux qui veulent pratiquer la religion. Donc, comment faire la prière, comment manger kasher, etc., comment respecter Shabbat. Et puis après, ceux qui veulent plus, par exemple, pour kasher, comment égorger, comment, voilà, il y a pas mal de nous, notre orthopraxie, si tu veux, il y a pas mal de règles, donc voilà, il enseigne ces règles-là, mais en même temps, il a un rôle spirituel. C'est-à-dire, le but, c'est pas juste le littéral, c'est-à-dire c'est pas juste l'exotérisme, c'est aussi l'ésotérisme, donc c'est l'intériorité, donc c'est la transformation, c'est comment devenir meilleur, parce que la religion c'est un outil de transformation personnelle, donc d'élévation, donc on se divinise entre guillemets, c'est-à-dire voilà, on va devenir une meilleure personne, c'est-à-dire de moins en moins égoïste et de plus en plus altruiste au service de l'autre, au service de la communauté. Et le rabbin, il est là pour donner les directions, pour être... Alors le rabbin, donc, c'est un enseignant religieux, la théologie, un enseignant spirituel, un enseignant mystique, mais c'est aussi quelqu'un qui fait de la médiation, vu qu'il c'est quelqu'un de sage, donc il fait la médiation entre, dans les couples, entre les générations, etc. C'est quelqu'un qui va donner du conseil spirituel aux gens qui veulent qui ont des questions. C'est aussi un thaumaturge, parce que, je veux dire, il n'y a pas que le monde matériel, il y a aussi les mondes spirituels. Donc il y a les anges, il y a les, ce qu'on appelle les djinnah, les shedim, il y a les choses comme ça, un petit peu toutes ces entités qui sont ces élémentaux, qui sont liés aux éléments, qui sont un petit peu les conscients, les étincelles de conscience divine qui sont dans la nature. Donc on enseigne tout ça, on est là juste pour guider, sachant que donc on est au niveau spirituel. Après tout ce qui est temporel, c'est laissé en général aux gens de la communauté qui sont plus des hommes d'affaires, des choses comme ça, des gens qui des commerçants. Donc voilà, la communauté, il n'y a pas que le rabbin, c'est pas une théocratie. C'est tout le monde est, on est tous ensemble. Le côté spirituel, c'est le rabbin qui s'en occupe. Le côté matériel, c'est des gens de la communauté qui sont dans la matérialité. Donc voilà, et ça marchait bien en général.
Juste dans la continuité de cette question, du coup, si tu peux nous parler aussi du Rebbe, parce que j'ai vu, en fait, après je me suis un peu renseigné par rapport à ça, notamment j'avais vu une vidéo où il y a, en fait, Ariel Sharon, je crois que c'est dans les années 60, qui va aux États-Unis et qui veut, enfin, pas pour entrer dans des considérations un peu polémiques, mais il va aux États-Unis et dit que, voilà, il doit rencontrer l'armée américaine pour discuter avec eux, etc. Et il dit aussi, j'y vais aussi pour rencontrer le Rebbe. Et donc,
c'est le Rabbi de Lubavitch.
Le
Rabbi de Lubavitch, c'était une figure assez spirituelle importante, parce que c'était le chef spirituel de cette branche, cette confrérie, parce que c'est les branches hassidiques, les écoles hassidiques sont en fait des confréries spirituelles, si tu veux, dont le chef spirituel. Et c'est à l'époque, c'était pour les Lubavitch, c'est le rabbin de Lubavitch, et c'était quelqu'un qui avait quand même un poids assez important dans la communauté juive, et même qui avait l'oreille des gouvernements, des choses comme ça, en tant que conseiller spirituel, tout simplement, parmi d'autres.
Oui, il y en a d'autres, il y a Breslev aussi.
Les non-juifs, hein, je veux dire, il n'y a pas que les juifs aux États-Unis, mais je veux dire, voilà, c'était un personnage spirituel important aux États-Unis, parmi d'autres, et donc, en tant que soi-disant représentant d'un État juif, c'est normal qu'il aille voir... quelqu'un de spirituellement important pour la communauté juive. Ariel Sharon, c'était pas quelqu'un de religieux, donc il n'en a rien à faire. Je veux dire, c'était juste politique.
Et alors, la place du judaïsme dont tu es le représentant, toi, aujourd'hui, tu disais que tu étais le dernier des Mohicans.
En France,
en tout cas, c'est quoi sa place
Alors, je vais te dire, le judaïsme français, malheureusement, alors c'est beaucoup de juifs. Ashkenaz, donc européens, qui sont assimilés, qui sont très très loin de la pratique juive. Ils ont une filiation juive, mais ils sont assez loin de la pratique synagogale et tout ça. Et il y a d'un autre côté les juifs maghrébins qui sont plus proches de la tradition. Donc c'est eux qui remplissent en fait les synagogues en majorité. Les juifs maghrébins.
Plutôt populaire.
Les juifs maghrébins, c'est à l'origine, c'est pas des populations très éduquées. C'est des populations populaires, des gens qui étaient artisans, ouvriers, commerçants, etc. Donc, c'est des gens qui pratiquent le judaïsme parce qu'ils se sentent juifs, ils ont la foi, mais ce n'est pas des gens très, très, très éduqués dans la théologie. Donc, ça reste des juifs simples. Et donc, quand on dit juif simple qui ne connaît pas beaucoup de choses, on peut facilement être manipulé ou être dirigé, quelque chose comme ça. D'où la réussite de mouvements comme le mouvement Lubavitch chez les juifs maghrébins, parce qu'ils n'étaient pas très très pratiquants, tout ça, surtout quand ils sont arrivés en France, il y avait la pauvreté, donc on ne pouvait pas mettre les enfants à l'école juive, etc. Donc ils ont mangé à la cantine, ils ont mangé des halouf et tout. Et donc les Lubavitch arrivent et ils rejudaïsent un petit peu tous ces séfarades, mais il les réjudaïse à leur image à eux, tu vois, donc il les réjudaïse en tant que Lubavitch, donc en tant qu'Ashkenaz, en tant que truc, donc ça fait un peu bizarre, tu vois, quelqu'un de très basané, qui a un blaze complètement juif maghrébin, arabe, tu vois, ou berbère, mais le mec, il est Lubavitch, il va prendre le yiddish, il prononce l'hébreu à la Lubavitch, il prononce le truc, donc il n'y a plus, même plus une goutte de sémitisme dedans, tu vois. Et c'est un petit peu désolant. Donc moi, si tu veux ma place, alors chez les Juifs orientaux, j'ai ma place, mais comme il n'y en a plus beaucoup de traditions ici en France...
Il n'y a plus du tout de communauté vraiment maghrébine
Il y en a avec un très peu. Ici, il y en a très peu. Alors les seuls à qui je me sens à l'aise, et c'est réciproque, c'est les Juifs de Djerba. Les Djerbiens. Les Djerbiens sont très bien parce qu'un, ils ne sont pas consistoriaux.
Okay.
C'est pas le consistoire qui va leur apprendre quelque chose, c'est plutôt le contraire, tu vois.
Ah, ça, c'est curieux.
Ils sont très religieux. Okay, ouais. Ils ont leur propre. Par exemple, il y a des restaurants cachers Djerbiens. Ils passent pas par le consistoire, il y a aucune truc. Toi, tu sais que c'est Gerbien parce que c'est eux qui s'en occupent et t'as confiance. Et c'est peut-être plus cachère que le restaurant avec un truc rabbinique dessus en disant c'est cachère. Moi, j'ai confiance au Gerbien. Ils prononcent bien l'hébreu. C'est des gens qui sont pas déguisés en Ashkenaz. C'est leur synagogue, c'est les seules synagogues où l'arabe, ça fait partie des langues parlées là-bas, tu vois. Donc c'est très sympa, voilà, c'est très sympa. Je me sens vraiment à l'aise chez les Djerbiens. Ça c'est vraiment les seuls qui ont gardé. Alors de temps en temps, tu as saupoudré ici là dans les synagogues des vieux ou des quelques familles qui peuvent avoir gardé les rites, mais ils sont noyés dans une masse qui a été déculturée, tu vois.
Est-ce que tu parles de culture, un peu de rapport d'opposition entre Ashkenaz et
C'est pas grave.
Mais est-ce que y a aussi une autre dimension dans le sens, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un espèce de renouveau du spirituel, comme ce que nous on a pu voir dans l'islam ou comme les évangélistes par exemple le christianisme. Et est-ce que aussi j'ai l'impression qu'il y a un rapport d'autorité qui essaie de s'installer dans la communauté?
Oui, parce que les Lubavitch c'est quand même une structure. Donc oui, il y a une certaine pyramidabilité. C'est une pyramide, tu vois. Et comme tu dis, il y a ce renouveau du spirituel, donc les gens qui ont cherché du sens à leur vie, ben, quand ils étaient juifs, ils ont été vers ce mouvement-là, comme d'autres qui n'avaient pas reçu beaucoup d'islam, à part quelque chose, un habitus culturel, ont été vers les salafiyas, les salafistes, le wahhabisme et les choses comme ça, le tablir, ou les évangélistes pour les chrétiens, c'est un petit peu pareil, mais du coup... les gens, on leur met, si tu veux, un prêt-à-penser ou un prêt, voilà, c'est un prêt-à-porter religieux. Yanni, tu dois te conformer à un certain truc. Et en fait, il n'y a plus du tout la couleur originale de la pratique qu'il y avait dans les pays d'origine ou dans les cultures d'origine. Il manque un gros pan spirituel. On est plus dans le littéralisme qu'autre chose.
En gros, c'est quoi? C'est l'accomplissement des mitzvot, une concentration dessus? Et pas forcément sur l'esprit de la...
C'est-à-dire qu'ils veulent mettre de l'esprit, mais c'est un esprit un peu light.
D'accord.
C'est un peu light.
En gros, c'est quoi? C'est « we want Mashiach now »
Ouais, c'est ça. C'est un petit peu comme quand tu vas dans une église fondamentale. Enfin, les évangélistes, ouais, ils chantent beaucoup.
D'accord.
Et puis la théologie, elle n'est pas très profonde, quoi.
D'accord.
Tu vois? C'est quoi?
On parle pas de trois
hypostases, on parle pas de se diviniser, on parle pas de... tu vois, et nous, la tradition séfarade, c'est une tradition très très mystique, très mystique.
Ah,
c'est
d'accord.
Nous, c'est la Kabbalah, toute la tradition mystique juive, la Kabbalah, c'est chez nous que ça s'est transmis, tu vois. Et c'est nous qui avons amené ça chez les Ashkenaz, qui l'avaient perdu vers le 14-15e siècle, il y a eu des problèmes... En Europe, les guerres de religion, les communautés juives ont été un petit peu déstabilisées, donc il y a eu une coupure. Et donc la tradition spirituelle, mystique, elle n'a pas réussi à se transmettre. Et ils l'ont perdue, et du coup, c'est vers le XVIIe siècle, avec le Baal Shem Tov, qui venait de Turquie, enfin, qui a été éduqué en mystique chez les séfarades, en Turquie, et qui a ramené la mystique en Europe. Chez nos frères européens, et donc c'est devenu le hassidisme. Donc chez eux, il y a un schisme entre les non-hassidiques et les hassidiques, c'est-à-dire entre ceux qui suivent la mystique, la Kabbalah, et ceux qui la suivent pas, alors qu'il n'y a jamais eu ce schisme ailleurs dans le judaïsme.
Ah,
ça n'existe pas, il n'y a pas de schisme.
Donc les mouvements hassidiques sont plutôt mystiques?
C'est complet. Les mouvements hassidiques sont des confréries mystiques.
D'accord.
Ashkenaz.
Ok.
Mais la, dont l'origine est, si tu veux, des confréries séfarades qui sont passées, qui ont été mystifiées, ou mystiquisées, okay. les populations juives ashkenazes qui avaient perdu la mystique. Voilà,
alors,
c'est ça.
Mais alors tout le monde, par contre,
mais c'est des Ashkenazes.
Par contre, la figure de Maïmonide, le Rambam, quoi.
Maïmonide est toujours très fort.
Elle est quand même très forte, même chez les communautés.
Et Maïmonide est très, de même, c'est une figure centrale. Maïmonide,
c'est ça, ouais.
Rabbi Moshe Ben Maïmon, c'est une figure centrale du judaïsme, parce que c'est quelqu'un qui a, d'abord, c'est un grand codificateur, c'est quelqu'un qui connaissait bien, qui a bien codifié les choses, et en plus, il a écrit un ouvrage de théologie qui s'appelle Le Guide des Égarés, qui est un ouvrage très, très important en théologie, enfin, ce qu'on appelle la scolastique médiévale, mais juive. Ça. Qui était très important. Donc Maïmonide est très important de toute manière. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une branche du judaïsme, justement chez les Européens, qui s'appelle rationaliste, entre guillemets, tu vois. Okay. On ne voit pas quand je fais les guillemets, donc je dis sur le podcast. Rationaliste, donc qui se réclame de Maïmonide en disant bah, Maïmonide, c'était un judaïsme rationaliste. Mais alors tu te dis, mais ça veut dire quoi votre rationalisme? Parce que le fils de Maïmonide, le fils aîné de Maïmonide, qui s'appelait Abraham Maïmonide, donc qui était le fils de son père, qui était reconnu à l'époque comme l'autorité qui faisait. Quand le père est décédé, quand il y avait des questions sur la théologie de son père, c'est lui qu'on venait.
D'accord.
Donc il y avait une continuité totale. Maïmonide, c'était un mystique pur. Son fils Abraham Maïmonide, c'était un mystique pur. Beaucoup l'appellent le soufi juif, tu vois. C'est-à-dire qu'il a écrit des ouvrages en arabe, dont on a retrouvé quelques fragments, parce que ça a été perdu avec le temps, mais on a retrouvé des fragments à la Gniza du Caire. Et il a écrit un ouvrage de mystique pure juive, quoi. Et les chercheurs européens, quand ils disaient bah, c'est comme le soufisme. Donc c'est du piétisme, si tu veux. Donc c'était quelqu'un complètement mystique. Tu vois, donc tu peux difficilement dire que son père était rationaliste ou pas mystique, alors que le fils, qui est vraiment l'héritier du père, est complètement mystique.
Ouais, donc
que Maïmonide était complètement mystique, parce qu'on le voit, il y a des petites allusions ici et là.
Ouais, la pomme est tombée près de l'arbre.
Donc nous, tu vois, si tu veux, toi, juste pour dire, c'est que la Torah, la spiritualité, la religion, en fait. Si tu veux mettre des étiquettes modernes dessus, elle est rouge et noire. C'est-à-dire, c'est de l'anarchisme et du socialisme. L'anarchisme, parce que on a confiance en l'être humain pour s'auto-organiser. Et d'accord. C'est notre responsabilité. Et on n'aime pas les structures, parce que les structures, elles vont se pervertir. Donc les structures, elles n'ont de durée de vie que pour l'utilité qu'elles ont.
D'accord.
Et on ne va pas idolâtrer la structure.
C'est une formulation du mandat impératif, quoi.
Et deuxième chose, c'est au niveau social, il faut vraiment faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous. C'est-à-dire être, on vit pas pour soi, on vit pour l'autre. L'autre, c'est un autre moi-même. Donc vraiment, on est dans le partage, on est dans le truc, c'est-à-dire quelque chose dans la spiritualité juive, tu vois, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir une convention qui contredirait, qui raconte une réalité. Je m'explique. La convention de nos jours, c'est l'argent. L'argent est une convention, ça n'existe pas. On donne une valeur monétaire à quelque chose, mais elle n'est pas tangente. Ça n'existe pas. L'objet existe, mais pas la valeur.
On parle de fétichisme, d'ailleurs, un peu.
Oui, c'est complètement. C'est mammon, hein. Ça veut dire, c'est pas pour rien qu'on prend le mot hébreu qui veut dire l'argent, tu vois. C'est une idole, c'est une illusion. Ça n'existe pas. Elle n'a pas de tangibilité, c'est une convention. Et d'un côté, tu as la réalité, tu vois. C'est-à-dire que si tu as l'abondance, bah, tu partages. Parce que nous, on dit la richesse, c'est dans le don. C'est quand tu as donné, tu es vraiment riche. C'est pas quand tu as. Parce qu'avoir, ça n'a aucune valeur. Est-ce que tu vas le prendre avec toi? Non, je veux dire, tu as, qu'est-ce que tu vas? Tu vas tout manger, tu vas manger ton or, tu vas manger des billets. C'est ridicule. Donc, c'est pas l'avoir, la richesse, c'est jamais été l'avoir. La richesse, c'est dans le don. Et donc si tu as, par exemple, l'abondance d'un côté, des gens qui sont dans le besoin de l'autre, qui ont faim. Ben, tu vas pas dire non mais ils ont pas l'argent pour acheter donc on va pas leur donner, tu vois. Ben non, c'est un besoin, c'est un truc, une convention qui est l'argent, elle va pas empêcher le fait de partager, tu vois. C'est ahurissant que c'est complètement contre la spiritualité, complètement contre toutes les valeurs de la Torah. Alors la Torah te dit elle est très rouge, la Torah, tu vois. Par exemple, et tu dis quelqu'un il a mis son manteau en gage pour un petit peu d'argent, tu vois. Il a mis son manteau, donc tu lui donnes l'argent, il a son manteau en cash. Mais là, le soir, tu dois lui rendre son manteau. Parce que le manteau, il va dormir dans quoi? Le manteau, ça servait de couverture aussi. Mais il va dormir dans quoi, l'Aziz? Tu vois? Donc, alors, voilà. Et tu dis, et le pauvre, il dit, Dieu, il entend le pauvre. C'est-à-dire, si toi tu as et tu lui donnes pas, et lui, il va crier la nuit, il va crier parce qu'il a faim, tout ça. Et moi, j'entends la plainte du pauvre. Et puis on a interdit le ribbit, c'est-à-dire le fait de faire de... Comment on dit en français? Riba.
Les intérêts,
voilà.
Ouais, pourquoi c'est interdit complètement le...
Complètement interdit, etc. Voilà, pourquoi? Parce que c'est deux choses... Or, le capitalisme est basé sur ça, c'est incroyable. Ouais. Tu vois, il est basé sur l'argent, donc c'est déjà une convention, sur la spéculation sur l'argent, sur la dette, donc sur l'endettement, parce qu'on doit rembourser, etc. Un truc de fou, quoi.
Et en plus, les communautés juives, surtout en Europe, ont souvent été accusées d'avoir... étaient cantonnés en fait à ces activités.
Ouais, alors c'est vrai que les chrétiens en Europe, parce que les juifs étaient des commerçants, donc ils brassaient un petit peu plus d'argent que les populations qui étaient paysannes, tout ça, ou juste des artisans, donc parce qu'ils étaient commerçants, donc les gens locaux, ben, quand ils avaient besoin d'argent, ils allaient chez le juif, chez le commerçant, parce qu'il avait un petit peu plus, donc il leur donnait des petits prêts. Donc, il y a une certaine lecture qui dit que. Parce que comme nous on combat l'idolâtrie, à l'époque les non-juifs étaient idolâtres, donc on pouvait prêter avec intérêt à un idolâtre.
D'accord.
Pourquoi? Justement parce qu'on veut l'appauvrir, on veut qu'il ait moins d'argent pour l'idolâtrie. C'est ça le but. Mais quand les non-juifs sont pas idolâtres, plus cette licité, elle est perdue. Mais il y en a qui ont fait, oui, c'est non-juif, c'est indépendant. Non. Le but de prendre avec les intérêts sur les idolâtres, c'est de les appauvrir. Comme ça, ils ont moins d'argent pour faire l'idolâtrie. Okay. Mais quelqu'un qui n'est pas idolâtre, il n'y a aucune raison. Je veux dire, c'est complètement illicite. Donc, on a toujours des gens qui ont essayé de contourner la loi et faire des choses comme ça. Donc, les banquiers juifs, ils sont juifs que de filiation ou de culture. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est comme le sionisme. Ils sont juifs de filiation. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est du nationalisme. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, tout ça n'a aucune base dans la religion, parce que la spiritualité, c'est le contraire de tout ça. C'est le contraire complet.
Hey, t'as dit beaucoup de choses, du coup, et ça lance beaucoup de questions. Faudra revenir beaucoup en arrière, mais c'est pas grave. Mais du coup, moi, les chrétiens, déjà, ont fait la même chose. Enfin, ils n'avaient pas le droit de faire de prêts intérêts, puis finalement, ils se sont retournés vers d'autres communautés pour emprunter et faire de l'intérêt. Et en fait, on a l'impression que nos trois religions se rejoignent quand même sur cet interdit de l'intérêt. Et est-ce que, du coup, on n'a pas un peu tous dévié en appelant les autres koufars, idolâtres, païens? Tu vois, c'est un peu les trois termes. Est-ce qu'on n'a pas ouvert la porte à quelque chose qui était pourtant collectivement interdit chez tout le monde?
Ouais, bien sûr. Mais surtout dans certaines... Alors, c'est les branches de l'islam qui appellent les autres koufars, parce qu'ils ne sont pas musulmans, c'est déjà une perversion de l'islam. Parce que, je veux dire, Ibrahim est appelé musulman, Isa est appelé musulman, tu vois que Ahl al-Kitab, les gens du livre, sont... Ouais. Je veux dire, l'islam, il y a deux lectures du mot islam. Il y a une lecture la plus réductrice, yani, c'est la pratique de l'islam selon la sunna mohammadienne, etc. Mais l'islam, en fait, c'est une attitude quand tu vois en arabe. L'attitude, c'est-à-dire que tu es croyant en Dieu. Tu vois? Et donc, c'est un abus d'appeler tout le monde koufar. Alors c'est bien d'appeler tout le monde koufar, parce que du coup, tu peux te permettre plein de choses, mais dans l'esprit du Coran, c'est pas du tout. L'esprit du Coran respecte énormément les gens qui ont les traditions antiennes, qui respectent la Torah, qui respectent les évangiles. Ils sont pas tous pareils, etc. Et c'est pour ça que Dieu, il a fait plusieurs nations, plusieurs tribus, les ta'arafou, pour que vous vous entreconnaissiez. Chacun a son manahij, ses règles, etc. C'est énorme. Donc tu vois qu'on est, l'islam est beaucoup plus acceptant de la diversité. Et c'est pas parce que toi t'es musulman et croyant que les autres sont dans l'impiété. Non, non, ils sont aussi musulmans et croyants selon leur prophète, dans leur, et on chemine tous vers le même Dieu. Donc c'est toujours les littéralistes, ils aiment bien rendre les autres koufars. Ça c'est bien, ça c'est même chez nous, hein, même chez les juifs. Encore une fois, tu vois, quand on dit, voilà, quand on assimile le goy, c'est-à-dire le non-juif, à l'idolâtre de la Torah, c'est un abus. Non, non, tous les non-juifs de nos jours, personne n'a le statut d'idolâtre, sauf peut-être très très des grandes, des exceptions, mais c'est exceptionnel. La majorité des non-juifs de nos jours appartiennent à des grandes traditions religieuses qui sont complètement, qui doivent être, sont légitimes et dignes de respect, ils n'ont pas du tout le statut d'idolâtre, pas du tout. Ouais, je veux dire, il faut
et
loin
du
de
coup,
nous.
Quel statut alors sont donnés
Vous avez un statut de croyant.
Il y a une question intéressante. Parce que...
c'est là, je vais dire juste.
Vas-y. Juste un truc. Parce que si nous, dans l'islam, on regarde, tu l'as bien dit, hein, vers l'arrière en disant, bah voilà, en fait, tout le monde est musulman, tu vois. Moshe était musulman, Aïssa était musulman, toute la suite. Est-ce qu'il y a un moyen de traduire ça dans l'autre sens,
ouais, c'est pas
en pensant qu'on est un peu tous des descendants du judaïsme, ouais. Tu vois, si tu prends le point de vue
oui. Alors vous n'êtes pas juifs, mais vous n'êtes pas des idolâtres, donc vous êtes les gens comme il faut, vous êtes les nations du nord, les nations. Ouais. Et il faut savoir que alors le judaïsme n'a jamais eu de velléité de convertir tout le monde, ça il faut bien le dire. Chez nous, le verset dit Torah suwala nu Moshe morashaq ila Yaakov. Yani la Torah qui nous a été ordonnée via Moïse, c'est l'héritage de la maison de Jacob. Donc la maison de Jacob, c'est notre héritage, c'est pas l'héritage des nations. Les nations, chaque nation, elle a son chemin. Dieu leur a envoyé des prophètes dans l'histoire, Dieu, et où à plus tard, etc. On a un autre verset qui dit Loqam b'Israël qui est Moshe Rot. Il ne se lèvera pas de prophète en Israël comme Moïse, mon serviteur, mais il y en aura d'autres. Il y aura d'autres ailleurs. Il y aura d'autres prophètes. Chaque famille humaine, elle a des personnages qui sont à la hauteur de Moïse, donc des législateurs qui apportent des religions. Donc nous, on n'a jamais eu l'exclusivité du paradis, jamais eu l'exclusivité, et même c'est même dans la loi canonique, dans ce qu'on appelle la halakha, yani quand un non-juif veut se convertir, il veut participer, rentrer dans la famille, on lui dit, mais si tu crois que c'est en rentrant, en devenant juif, que tu auras le salut, yani le monde futur, le paradis,
ouais.
Non, sois une bonne personne selon ta culture, selon ta voix, ça suffit. Je veux dire, on n'a pas l'exclusivité. Et ça, c'est canonique.
Ça, c'est canonique.
Donc c'est vraiment dans la halakha, donc c'est vraiment dans notre aqida, si tu veux, ouais. C'est vraiment, on n'a jamais l'exclusivité, donc évidemment que les nations du monde de nos jours sont pas idolâtres, elles sont pas juives, mais elles sont pas idolâtres. Donc vous êtes des non-juifs comme il faut, des non-juifs croyant en Dieu, qui ont des structures religieuses, des structures juridiques, voilà, vous êtes tout à fait respectables. Et donc c'est complètement illicite de par exemple de prêter avec intérêt de nos jours, ouais. À la majorité des non-juifs. Non, c'est irresponsable.
On pourrait essayer de sortir de l'intérêt.
Je pense que nous, on est d'accord sur la question des... En fait, le Coran semble... Alors, on n'est pas forcément tous d'accord là-dessus, mais le Coran semble distinguer le dîn, la voix, qui contient en fait la majorité des gens, à 99,9% des gens, hormis les grands criminels, les tyrans, etc. quoi. Et il semble distinguer à l'intérieur de ça des millats. Donc en fait les millats qui sont à l'intérieur des chemins particuliers qui sont le judaïsme, qui sont à l'époque de
christianisme, les sabéens, les machins,
ça, les ébionites, les judéo-chrétiens, etc. quoi. Donc le Coran semble dire qu'en fait il laisse cette possibilité de ce que j'ai pu voir, c'est certains rabbins plutôt ashkénazes qui établissent quand même des hiérarchies. Hein, souvent, ils ont plutôt une plutôt bonne estime de l'islam en général, en disant ils font Brit Mila, ils font la circoncision, ils sont vraiment monothéistes. Ils sont pas idolâtres, ils évitent de mettre des icônes dans les. Alors souvent il y a ce petit chemin là, mais en fait toi ce que tu vas beaucoup plus loin. En fait tu dis que les gens tu épouses une doctrine du salut qui est quand même beaucoup plus large.
Doctrine du judaïsme. Hein.
D'accord.
C'est pas que la mienne. Hein. Je veux dire, j'invente rien. Mais alors ce que les rabbins disent vis-à-vis, c'est la proximité.
Oui.
C'est-à-dire que tu vois le judaïsme et l'islam. Moi j'avais un de mes rabbins quand j'étais jeune, le Mekhlouf Eddahan, un juif marocain, un kabbaliste, et il me disait. Le judaïsme et l'islam, c'est les deux facettes de la même pièce de monnaie.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire que nos structures sont très, très similaires. Mm. On a une structure, voilà. C'est dans la journée, on doit prier à des certaines heures. On a une articulation par la semaine, le mois. On a des lois alimentaires. On a des... Je veux dire, c'est vraiment une familiarité. Et donc, c'est pour ça qu'on sent une proximité dans l'islam, tu vois.
D'ailleurs, les jurisprudences, notamment au Maghreb, ont été mêlées.
Oui, bien sûr.
Le malikisme a épousé en fait le judaïsme andalou et maghrébin. Et en fait, ils se sont formés ensemble. En fait,
tout à fait. Même la manière de penser, la manière de ça, oui. C'est le fiqh musulman et la khaj juive, par exemple au Maroc, tout ça. C'est une manière, une structure de pensée. Qui est très similaire. Donc si vous voulez, les structures sont là. Après le remplissage, il peut être un peu différent. Déjà, on n'a pas les mêmes livres sacrés, on n'a pas la même langue liturgique, mais je veux dire, on s'y retrouve, tu vois.
C'est proche.
Là, c'est très très proche. Chose que tu as moins, c'est quand tu vois le christianisme, surtout le catholicisme, peut-être qu'il s'est développé en Europe, où là, on commence à être en terrain un petit peu étranger, tu vois, parce que pas le cas du christianisme oriental ou éthiopien, tu vois, on est quand même assez similaires, tu vois.
Ah d'accord, donc tu veux dire qu'il y a quand même un aspect culturel qui est important, c'est
ça ? Ah ouais, okay. C'est énorme.
D'accord.
C'est énorme. Je veux dire, si quelqu'un, en Orient, si quelqu'un il parle pas de sa religion, tu peux pas savoir quelle religion il est. Sauf s'il te dit, je dois aller à l'église ou à la synagogue ou à la mosquée. Mm-hmm. Sinon, le mec...
Même vestimentairement,
on parle pareil, vestiment pareil, on mange pareil, en truc, on a les mêmes... Donc je veux dire, c'est vraiment c'est des détails, la religion. C'est des détails importants, mais c'est des détails au niveau culturel. Alors c'est vrai que plus on s'éloigne de la proximité culturelle orientale, si tu veux, moyenne-orientale, proche-orientale, c'est vrai que plus ça devient un peu mystérieux, le catholicisme européen, le christianisme européen, quand même quelque chose
de particulier.
Ouais. Ah, je veux dire, on se sent pas à l'aise, tu vois, il y a les statues, il y a les machins, les trucs, tu comprends pas. Ils rentrent avec des chaussures dans leur lieu, les trucs, ils font pas leurs ablutions, tu vois, tu comprends pas. Et c'est quoi, ils prient pas, voilà, tu vois, on est moins ce. Il y a moins de proximité culturelle, tu vois.
D'accord.
Mais ça veut pas dire qu'on va pas estimer leur religion.
C'est ça.
Et puis tu pars chez les chamans, tu pars chez les esquimaux, tu pars chez les pygmées, je veux dire, chacun.
Parce que tu parles, c'est plutôt un rapport esthétique.
Voilà, c'est parce que. Du point de vue extérieur, plus tu es dans un contexte culturel, socio-économique, linguistique et géographique différent, plus tu vas être différent extérieurement. Mais après, quand tu vas vraiment avoir un vrai dialogue avec les personnes spirituelles, les représentations, vraiment les représentants des spiritualités, tu aperçois que c'est que l'habillage. Le fond de l'enseignement, c'est toujours le même. Ça c'est partout tu vas. Et tu vois par exemple l'hindouisme qui pour nous nos traditions abrahamiques, ça on dirait vraiment de l'idolâtrie quoi.
Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu les castes que l'idolâtrie.
Attends, non mais il y a aussi l'idolâtrie, tu vois, ils ont des statues, ils ont combien de dieux, combien de machins, tu vois, ils ont des trucs. Mais en fait, quand tu parles avec les théologiens les profonds, ils disent non, c'est pas des dieux,
c'est des
manifestations de ce que vous appelez les attributs ou les noms divins.
Exactement.
Nous on donne ces images là, mais si tu veux au fond il n'y a qu'un seul créateur, tu vois, c'est Brahman, c'est l'absolu.
Ouais.
Et donc il y a justement des rabbins qui ont parlé aux théologiens hindous récemment, et donc le rabbinat israélien a pondu un rapport en disant que l'hindouisme n'est pas de l'idolâtrie.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Tu vois, donc ça vient du dialogue. Et ça a été fait, par exemple, quand le christianisme est devenu la religion romaine, donc après le concile de Nicée, les rabbins se sont posés la question, est-ce que ce christianisme-là, c'est de l'idolâtrie ou pas ? On a le droit de se poser la question. Il y a des statues, des machins, des trucs. Trinité, il y a là le Père, le Fils, machin. Et donc, pourquoi c'est important de savoir si c'est de l'idolâtrie ? Parce qu'encore une fois, c'est notre rapport à eux. C'est-à-dire que si c'est des idolâtres, on n'a pas le droit de commercer avec eux pour leur fête idolâtre, tu vois.
Suivant les lois.
Parce que ça veut dire qu'on encourage l'idolâtrie. Il faut leur prêter avec intérêt, etc., etc. Tu vois, il y a plein de choses qui se... S'ils touchent le vin, par exemple, le vin, c'est mort. On doit jeter, tu vois, parce que c'est des idolâtres.
C'est marrant.
Si c'est pas des idolâtres, c'est neutre.
J'ai une vision un peu détachée de ça, dans le sens où...
Attends, mais...
Des relations non religieuses avec des gens qui sont pas croyants, tu vois.
Non, c'est pas une question de pas croyance. Idolâtre, c'est vraiment quelque chose de spécial. La Torah nous a demandé de vraiment nous séparer de l'idolâtrie, de pas encourager. Alors, tu peux avoir des relations normales avec les idolâtres, tu vois, mais au moment de leur fête, tu fais pas du commerce. Parce que c'est une fête idolâtre, donc ils vont t'acheter des choses, ils vont faire des sacrifices avec, avoir des trucs. Non, tu participes pas, tu veux pas être quelqu'un qui aide, tu vois, même si c'est de... On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de... Si quelque chose, il a été utilisé pour l'idolâtrie, nous, on ne peut pas l'utiliser. La religion, elle rentre malgré tout. Après, au niveau humain, on peut être ami, on peut être truc, mais l'aziz, il y a des choses, je ne peux pas toucher, quoi.
Est-ce qu'à l'inverse, c'est les chrétiens orientaux, ou éthiopiens, tu vois dans l'histoire, ou maintenant, des liens plus faciles avec
les Israéliens ? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'étais en Éthiopie. T'as l'impression d'être à l'époque de la Mishnah, quoi. Je veux dire, les gens, ils vivent leur christianisme exactement comme du judaïsme.
Avec les bêtas Israël.
Non, je parle des Éthiopiens chrétiens, moi. Je parle pas des Juifs. Je parle des chrétiens, quoi. Je veux dire, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, c'est.
T'es allé là-bas ?
Oui, bien sûr. Mais je suis intervenu, j'ai fait un discours à l'Union, l'Union africaine, là, à Addis Abeba, en séance plénière. Il y avait le président d'Éthiopie, il y avait le représentant de l'église aussi. Okay. Et je leur ai dit, mais je suis très impressionné. En plus, j'avais été à la Libella, donc on avait vu les vieilles églises comme Et j'ai dit au chef de l'église, je dis, mais vraiment, on sent le lien avec Jérusalem, avec la Terre Sainte, quoi. Je veux dire, vous êtes. Et deux choses, ça au niveau religieux, au niveau déjà social. On sent que c'est un pays qui n'a jamais été colonisé, tu vois, parce qu'ils sont bien éduqués, ils ont gardé. Tu vois, il n'y a pas un colon qui a détruit la structure sociale.
La culture, la solidarité,
elle est là, les gens sont bien éduqués. Tu vois, par exemple, c'est un pays africain quand même, hein. Mais à Addis Abeba ou dans les villes, les gens, ils font la queue quand ils arrivent pour le bus. Tu vois, chose que même en France, tu ne fais pas, tu vois. France, soi-disant, pays éduqué, tu vois. Il n'y a pas, les gens, c'est la ruée, tu vois. Là-bas, non, ils sont éduqués, tu te dis, Et j'ai dit au président, j'ai dit, ça devrait être obligé, c'est dans l'anglais que je parlais, mais j'ai dit, it should be mandatory, ça devrait être obligatoire pour tous les pays africains qui ont été colonisés, d'envoyer les collégiens ou les lycéens une semaine en Éthiopie, pour voir qu'est-ce que c'est un pays pas colonisé, qu'est-ce que c'est un pays où les gens ils rêvent pas d'aller ailleurs, de trucs, non, eux c'est son pays, donc ils font des études, ils restent, tu vois, ils vont pas aller alimenter... donner leur force aux colons, un truc comme ça, tu vois. L'ex-colon.
Alors, du coup, la figure de Jésus, de ton point de vue, toi, comment tu l'as...
Alors, la figure de Jésus, comme la figure de Mohammed, ce sont des personnages qui sont venus postérieurement. Donc, après, c'est laissé au discernement des rabbins, des choses comme ça. Alors, d'où, dans le judaïsme, il y a tout l'éventail. Hein. C'est surtout chez les juifs qui n'avaient pas de contact avec l'islam. Ben pour eux, Mohammed, c'est rien, ou c'est un faussaire, ou c'est quelqu'un qui a réutilisé des trucs, qui a appris chez les juifs et qui a fait son truc. Après, plus tu te rapproches des pays musulmans, plus tu as un respect. Beaucoup de juifs du bassin méditerranéen, les rabbins, disent non, c'était un sage, au moins, tu vois, c'était un sage. Donc c'est quelqu'un qui a réfléchi. Le Coran, c'est un livre de sagesse, donc c'est pas un livre à jeter ou à brûler, tu vois. Et puis, tu as. Certains aussi, surtout les juifs mystiques, qui disent non, c'était un prophète. Dieu a envoyé des prophètes aux nations, donc ça fait un des prophètes aux nations, et le Coran est un livre prophétique. Hein, donc ça, personnellement, c'est ma lignée, tu vois.
D'accord.
Donc nous, Mohammed, c'est un prophète, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Okay. Jésus aussi ?
Alors Jésus, c'est un prophète a posteriori. C'est ça le truc.
C'est-à-dire ?
Je vais t'expliquer. Alors, pour nous, alors, encore une fois, Jésus, le personnage, le problème est arrivé quand le christianisme est devenu la religion de l'Empire romain.
Ouais.
Et que les chrétiens ont cherché à convertir les juifs. Et donc les rabbins... Alors il se trouve que Jésus, c'est un nom, c'est un prénom courant.
Ah bah oui, oui.
Jésus, c'est un prénom courant. Hein. Il n'y a pas un seul Jésus, il y en a
ouais,
beaucoup.
Josué,
et donc l'avantage, enfin l'avantage pour les rabbins, c'est qu'on avait un personnage Jésus un petit peu avant, un siècle ou deux avant, un siècle et demi avant le Jésus des chrétiens, un Jésus qui était un sorcier, qui a fait des mauvaises choses. Et donc ils se sont dit, pour empêcher nos ouailles de se faire convertir par les trucs, ils ont sorti ça, ils ont dit, voyez, Jésus, c'est ça. Sachant très bien, nous les érudits, que c'est pas le Jésus, donc, parce que le Jésus des chrétiens, le Jésus historique, c'était un rabbin tout à fait orthodoxe, il a jamais nié la Torah, et tout ce qu'il a fait, le christianisme s'est développé après, et après c'est parti en cacahuète, comme on le connaît par rapport à nous. Mais donc le Jésus historique, minimum, c'est un rabbin digne de respect en tant que rabbin, déjà. C'était en plus, quand on voit, c'était un personnage spirituel, donc c'était un maître spirituel. Nous, dans notre tradition mystique, on connaît sa lignée spirituelle, donc c'était un vrai maître spirituel réalisé. Et en plus, comme tous les maîtres spirituels réalisés, tu as une étincelle de prophétie chez les maîtres réalisés, toujours. Et a posteriori, vu la postérité de ses enseignements, il a un statut de prophète. Donc si tu veux, il a acquis le statut de prophète,
okay.
A posteriori, par la réussite de ses enseignements. C'est difficile de lui enlever le statut de prophète. Tu vois ce que je veux dire?
Est-ce que son
Parce que toi, t'as beau essayer, tu n'y arriveras jamais à faire un truc comme ça.
Non.
Tu sens bien qu'il y a la providence divine derrière. Quoi.
Et est-ce que son
Surtout que le christianisme a produit des saints. Mes maîtres, ils m'ont toujours dit, tu veux savoir si une religion, elle est authentique, il y a la providence, elle produit des saints, elle produit la sainteté.
D'accord,
si elle produit la sainteté, khalas. Donc, donc c'est vrai que nous, en tant que rabbin, en tant que juif, on peut être que... je veux dire, toutes les religions, genre le christianisme ou l'hindouisme, tu vois, c'est pas du tout abrahamique, pour nous c'est de l'idolâtrie, mais pour eux tu vois que ça a produit des saints, donc on respecte.
D'accord, ce qui veut pas dire suivre, mais ce qui veut dire en fait reconnaître au moins dans ces messages-là
l'authenticité pour eux. C'est-à-dire que nous, c'est ça la subtilité des rabbins, c'est que de dire le christianisme ou l'hindouisme, pour nous c'est de l'idolâtrie, pour nous, parce que c'est pas notre manière d'adorer Dieu ou de servir Dieu. Mais pour eux, non. Pour eux, c'est pas de l'idolâtrie. Parce
d'accord.
Que eux, il y a une théologie derrière qui est complètement monothéiste à la base. Tu vois.
D'accord.
Donc il faut pas se fier à la forme. Pour nous, la forme, elle est complètement idolâtre.
D'accord.
Mais le fond est complètement monothéiste. Donc on va respecter. Et donc pour eux, ils n'ont pas le statut d'idolâtre. Ils ont le statut de monothéiste.
Okay. Il y a un petit truc qui m'intéresse en ce moment, justement, pour rejoindre nos traditions. C'est, il y a ce moment, après Jésus, justement... où tu as des révoltes, il y a les révoltes juives contre l'Empire romain,
ouais.
Qui sont assez connues, en Égypte, au Moyen-Orient.
Pas au même moment, mais des époques différentes. Ouais.
Et il y en a sur les deux dernières, on a l'impression qu'il y a à la fois des juifs et des chrétiens, mais aussi qu'il y a à la fois des juifs et des arabes, qui se battent ensemble contre l'Empire romain, qui subissent les foudres, la répression dure de l'Empire romain aussi. Est-ce que ce moment te parle un peu ou...
Ça c'est historique, ce sont des moments historiques, parce que l'Empire romain c'était un empire colonial, tu vois, donc ils arrivaient avec tout le rouleau compresseur de leurs idées, de leur théologie, de leurs choses comme ça, et bon, c'est normal qu'il y ait eu des résistances, c'est normal, et de toute manière les juifs et les arabes, enfin les juifs, c'est-à-dire les judéens et les pré-arabes à l'époque, parce que c'était les Nabatéens, les choses comme ça.
C'est vrai.
Je veux dire, évidemment qu'ils étaient, ils avaient certaines, ils avaient ils pouvaient avoir des problèmes avec les Romains, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, de toute manière c'est sûr. Surtout que les Romains, le but était quand même, comme les colons européens au 19e siècle, c'était économique, c'est-à-dire mettre la main sur les routes, les routes économiques. En se disant, il n'y a pas de raison qu'ils s'enrichissent, tu vois, c'est, on va prendre le truc et c'est nous qui nous enrichissons. Donc évidemment, il y a eu des résistances vis-à-vis de ça. Ce n'était pas que religieux ou que nationaliste, c'était aussi économique. Sachant que les Judéens étaient des grands commerçants, je veux dire, ils allaient jusqu'en Inde.
Oui.
Il y a des comptoirs juifs en antiquité en Inde.
Donc tu irais jusqu'à dire qu'il y a pu avoir des révoltes, notamment juives, qui étaient des révoltes de type social? Ouais, dans l'Antiquité.
Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr.
Ouais. Avec des logiques de libération et de...
Ah oui, 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 bien sûr.
D'accord.
Bien sûr. Bah, surtout, surtout les révoltes du 1er siècle, qui étaient... on sentait que les gens avaient besoin pas seulement de se libérer religieusement, mais c'était surtout socialement aussi.
D'accord.
Aussi, parce que l'Empire romain, c'était... Il faut payer des taxes, il faut payer des
choses. Il y a une structure d'oppression, quand même.
Et surtout, surtout que les Judéens étaient quand même des commerçants à l'époque, il ne faut pas oublier. Les caravanes, elles passaient par l'Empire perse, elles passaient par la route de la soie jusqu'en Chine,
ouais.
Et par la mer, par l'Inde, etc. Donc, je veux dire, l'Afrique, l'Indonésie, je veux dire, il y avait tout le commerce des épices. Donc, on voit quand même que les Judéens, l'Empire romain voulait mettre la main sur ces routes-là. Ouais,
pas terrible. Brüder und Schwester von Arbeit und Neut, alle verseinen zu seid und zu spreit, zusammen, zusammen, die von sie's gerät, sie flattert von Zorn, vom Blut ist sie reut, a Schwur, auf Leben und Teut. Himmel und Sterren, a Schwur von Tränen, mir schwören, a Treuheit und Grenzen zum Bund, doch erkenn die Sklaven befreien Zund, sein von dir Reute, is heuch und is breit, mir schwören im Treuheit,
clérical du judaïsme.
Ouais.
En gros, la méfiance vis-à-vis des structures et ces traditions d'autonomie vis-à-vis de... En France, le judaïsme, il est domestiqué par Napoléon, notamment, avec le consistoire.
Ouais. Mais c'est grosse arnaque.
Mais c'est vrai. Mais c'est vrai partout en Europe, en fait.
Ça participe des structures, comme je disais. Ouais. C'est la modernité, elle a besoin de structurer les choses.
Et en fait, l'enjeu, c'est de surtout pas laisser faire ces communautés juives qui décrètent leur propre façon de voir et qui s'organisent comme ça de manière complètement libre.
Ah, ils aiment pas, ouais.
Et en fait, là, il y avait un enjeu de contrôle des populations juives, notamment en Europe, quoi.
Ah, au début, non, c'est pas tant de contrôle, c'est d'organisation.
D'organisation, d'accord.
Le but du consistoire, c'était vraiment l'organisation de la foi israélite, de la religion israélite, de la pratique israélite juive en France. Et le consistoire a été au service de la communauté pendant un bon siècle et demi. Donc ça a marché.
D'accord.
Le consistoire a marché quand même. Maintenant, non. Maintenant, c'est une mafia. C'est plus un frein au développement de la communauté juive qu'autre chose. C'est très opaque. On ne sait pas où va. Il y a des taxes, ce qui fait que le cachère il est deux fois plus cher, tu vois. Ça, beaucoup de rabbins se sont levés contre ça. Moi, je me souviens, dans les années 80, à Marseille, le Rav Hassoun, à l'époque, vendait de la viande sans payer la taxe consistorielle, la viande cachère, au prix de la viande non cachère normale. Hein.
D'accord, ouais. Et on venait des prix normaux, quoi.
Eh oui, parce que la communauté, on n'est pas riche, hein, je veux dire.
Il faut dire que c'est très très cher.
C'est cher, je veux dire, il y a des gens qui ont beaucoup d'enfants, qui ont peu d'argent, ils n'arrivent pas à manger de la viande, même des fois toutes les semaines, quoi. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est très cher. Et le Rav Hassoun a vraiment fait un geste de rabbin, parce que le rabbin, il est là pour vraiment organiser aussi la communauté, aider au niveau économique. Et le consistoire lui a fait un procès, il a perdu, tu vois.
D'accord.
Ah ouais, dans les
années. Qui a perdu, lui ou...
Le Rav Hassoun a perdu. Ah,
mais ce qui veut dire derrière, c'est de plus avoir le tampon.
Ouais, c'est-à-dire que le Rav Hassoun était dans une optique autonome, tu vois. Voilà, on donne, c'est moi qui donne mon tampon. Celui qui a confiance, ouais, il mange. Celui qui n'a pas confiance, il ne mange pas, tu vois. Mais moi, je propose la viande. J'ai pas la taxe consistoriale, donc j'ai pas ma viande deux fois plus chère.
D'accord. Voilà.
Et comme ça, les gens peuvent acheter. Et le consistoire a dit non, nous, c'est le cachère, c'est la loi, nous protège. Et ils ont gagné leur procès contre le Rav Hassoun. Et donc, du coup, en France, tout ce qui est consistoire, le cachère en France est protégé par la loi. Et il y a une taxe, et il y a beaucoup d'argent qui s'évade, enfin, on n'a pas l'impression que ça revient, ruisselle sur la communauté juive.
Ouais. Donc là, il y a un
enjeu. Normalement, ces taxes-là, elles sont faites pour organiser le culte. Ah. Donc normalement, les écoles juives, elles devraient être gratuites.
Ok, ouais.
Grâce à cette taxe. J'ai l'impression qu'on est un peu dans cette phase pour les.
Les musulmans, voilà, justement, il se trouve que voilà, le judaïsme est chapeauté, ils veulent faire exactement la même chose pour l'islam. Ouais, tu vois,
la logique de domestication.
Mettre la main dessus. Et,
le chapeautage par l'État français, là, pour le coup, il allait à l'encontre des intérêts des juifs.
Au début, non. C'était vraiment pour organiser le culte. Mais là, encore une fois, on voit bien qu'on est dans une structure qui s'est pervertie.
Ouais, tu arrives qu'à dire que l'initiative de Napoléon, de création du consistoire, elle avait quand même des aspects positifs, on va dire.
Elle avait des aspects positifs, oui, pour l'organisation. Ça a aidé la communauté juive en France.
D'accord. Ouais.
Mais
quitte à perdre parfois des pratiques très
diverses. Après comme il y a des consistoires locaux, je veux dire, c'est resté ça a juste mis les rabbins sous un même chapeau, un même parapluie, tu vois.
Ok.
Mais là c'est vraiment une structure de domination, une structure d'oppression. Surtout que le consistoire, par exemple, alors qu'il doit juste organiser le culte israélite, il prend des positions politiques, tu vois, sionistes, il vend des trucs, je veux dire, qu'est-ce que ça a à voir. Tu es israélite en France, tu vois. Ça participe de la mainmise l'agence juive, donc des structures israéliennes, sionistes, sur toutes les institutions juives, tu vois, dans le monde. Donc dès qu'il y a une institution, elle est noyautée par ça, et elle devient politique. Et donc on n'est plus du tout dans le judaïsme, on n'est plus du tout dans la spiritualité, plus du tout dans l'aide aux juifs locaux, mais on est dans une optique sioniste, tu vois, on va mettre le bâton dans les roues des gens de manière à ce qu'ils partent. En Israël, tu vois.
Et est-ce que tu crois...
C'est pervers.
Ouais, mais est-ce que tu crois, du coup, que l'État français peut faire un peu comme ce qu'a fait l'Empire romain sur le... Enfin, fait, ce qu'il fait. L'Empire romain sur le christianisme, c'est-à-dire forcer des hiérarchies, forcer des certifications, forcer des... à hiérarchiser un peu
le gouvernement français est laïque, donc il peut pas influencer la religion, tu vois, contrairement à l'Empire romain qui s'est dit chrétien.
Il peut l'organiser.
Oui, l'organiser, mais sans plus. C'est vrai que il y a des aberrations, tu vois, parce que normalement la laïcité, elle dit qu'il y a une séparation de l'Église et de l'État. Il y a ni de la religion, l'organisation de la religion et de l'État. Donc normalement la religion, elle devrait être autonome, tu vois. L'État, il devrait pas mettre. Mais or, par exemple, dans le mariage, tu peux pas marier et faire un mariage religieux s'il n'y a pas eu un mariage civil avant.
Ouais.
Et pareil, tu peux pas faire un divorce religieux s'il n'y a pas eu un divorce civil avant. Tu te dis, ah là, pourquoi ? Parce que, je veux dire, qu'est-ce que l'État t'a à mettre ton... Moi, si je veux, si quelqu'un veut se marier religieusement, en quoi l'État il doit donner son feu vert ou pas, tu vois? C'est-à-dire que manier religieusement, on veut pas la caution de l'État, on veut pas la caution de la société. C'est on veut se marier au vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire qu'on veut être pas dans le péché, mais dans la licité, tu vois? Ici, l'État, il en a rien à faire de la licité, vu que c'est pas illicite de tromper sa femme, tu vois? Nous, religieusement, si. Donc nous, ça a un sens, le mariage religieux, c'est pas le mariage civil. Donc le mariage civil devant la société est garante des droits, etc. Super, très bien, mais maintenant, nous, on veut un mariage religieux, on s'en fout de la garance de la société. Nous, c'est juste au niveau de Dieu. Après, si on veut divorcer, c'est aussi selon les lois religieuses, tu vois. Et surtout, surtout par exemple, on a des religions qui permettent la polygamie, tu vois. Donc là, ici, la loi française laïque interdit la polygamie, mais nous, la loi religieuse n'interdit pas, tu vois. Donc, pourquoi tu m'interdirais d'avoir plusieurs femmes religieusement ? Moi, je t'ai rien, j'ai pas demandé la garantie de l'État, tu vois.
Je suis d'accord, mais surtout que la polygamie, en fait, elle existe aussi chez les athées, elle est légale dans l'État français, tu vois, on peut avoir plusieurs femmes.
De facto, c'est pas là. Alors, c'est pas la polygamie. C'est-à-dire, les gens ont plusieurs partenaires sexuels.
Ouais.
Mais pour nous, ils sont dans le péché, tu vois. C'est moralement, c'est-à-dire, marie-toi, l'Aziz, fais truc, au moins, t'as un contrat moral. Et il y a les lois religieuses qui garantissent les droits des uns et des autres, tu vois.
Okay,
mais eux, il n'y a pas... Alors, d'un côté, ils obligent les gens à prendre une garantie sociale, truc, mais d'un autre côté, ils peuvent aller coucher n'importe... Voilà, pour moi, personnellement, en tant que personnage religieux, je trouve ça incohérent. Pour moi, c'est un manque de morale, tu vois.
Ouais, je trouve que c'est un...
Et donc ici, on est en clash, tu vois, on est en clash. Donc
moi j'ai
alors que attends, tu vois, le droit religieux il nous dit il faut respecter le droit laïque, c'est-à-dire le droit, on dit dina de malchusa dina, c'est-à-dire le droit du pays, le droit du roi, la loi du roi, c'est la loi, tu vois. Donc religieusement, par exemple, je dois m'arrêter à un feu rouge. Si je grille un feu rouge, j'ai pas seulement grillé un feu rouge, grillé la loi civile, j'ai grillé une loi religieuse. Ouais. Parce que ces lois-là, elles ne contredisent pas des lois religieuses. Mais quand une loi civile contredit une loi religieuse, c'est là où j'ai un problème, tu vois.
Mais attends, parce que là, du coup, j'ai deux questions. Et si voilà. Va se passer, tout va bifurquer, il va y avoir du multivers qui rentre dans la discussion. Contre nous-mêmes, est-ce que si on était organisé de façon autonome, est-ce qu'on arriverait à prendre en compte le droit des femmes suffisamment sans l'apport de l'État ?
Bien sûr. Mais pourquoi ? Parce que les femmes, elles ont exactement les mêmes droits que les hommes. Après, nous, il y a au niveau spirituel, tu as les droits, les devoirs et la complémentarité. Donc, c'est-à-dire, les droits, les hommes et femmes, on a les mêmes droits. Au niveau des devoirs, au niveau des devoirs, oui, c'est-à-dire, on a des différences. Et au niveau de la, on est complémentaire au niveau de notre rôle dans la société, notre rôle dans le couple, les complémentaires. Donc on a l'égalité dans les droits, la différence dans les devoirs et la complémentarité dans les rôles. C'est sur ces trois pieds là, c'est un trépied sur lequel tout le monde peut fructifier, tu vois. Donc évidemment que s'il n'y avait pas une société opprimante, les femmes, elles auraient plus leur place. C'est la société qui opprime les femmes, c'est pas l'autogestion que vous dites. L'autogestion, mais au contraire. On a vu combien de femmes elles ont pris des rôles, elles ont dirigé des sociétés, elles ont dirigé des villages, elles ont pris les choses en main. Je veux dire, tant mieux après, si une après, femme elle est après, mieux qu'un homme. Je veux dire, à ce niveau-là.
Après,
on s'en fout du genre, quoi. Je veux dire, c'est pas...
Après, moi, dans ma mosquée dont j'ai été très actif, on a eu énormément de problèmes avec les mariages dits religieux. Parce qu'en fait, il se passait ce schéma répétitif qui est que un homme venait, il prenait la perle de tes yeux, le papa qui a éduqué sa fille, qui lui a tout donné, etc. Et en fait, il se marie avec elle et puis au bout de deux semaines, il la jette, quoi. Parce qu'il a juste fait une fatiha sans rien, quasi juste comme ça, religieux, juste avec des bons sentiments. Et en fait, il y a eu énormément de dégâts qui se sont répétés localement dans les communautés.
Ça c'est le mariage religieux dans l'islam, c'est pas du tout le mariage religieux dans le judaïsme.
Oui, oui.
Le judaïsme, en fait, il y a un contrat,
on peut l'entendre.
Il y a des témoins.
Oui, mais en fait, c'est même vu comme... En fait, en principe, c'est fait comme ça. Alors, dans des communautés moyen-orientales, au Proche-Orient, en Syrie, etc., c'est pas le cas, en fait. C'est très codifié aussi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mariage civil au Liban notamment. Mais en France, ça a été assez catastrophique ces 20-30 dernières années où il y avait beaucoup d'abus. Et en fait, c'est vécu dans les mosquées comme étant un apport, ce truc-là du mariage civil. Avant, ça protège beaucoup, notamment les femmes qui sont abusées souvent. En fait,
tant mieux. Là, ouais. Là, ça vient réparer. Mais tu vois, dans le judaïsme, c'est pas le cas. Tu vois,
dans le judaïsme, il y a quoi ? Dans
le judaïsme, le rabbin, il est là. Je veux dire, le rabbinat,
ben, ouais.
Les rabbins sont là pour respecter les choses.
D'accord, en termes de droits des femmes, quand même, c'est assez compliqué.
On est d'accord. Mais là, parce qu'il y a des abus. Mais encore une fois, si on était autogéré, peut-être on retrouverait les mecs, on leur ferait le. on leur donnerait une petite leçon, tu vois.
Ah oui, d'accord. Donc la communauté peut appuyer.
La communauté est garante. C'est la communauté religieuse qui garantit religieusement le mariage religieux. Ouais. Okay. Et on ne demande pas la communauté nationale, tu vois.
Ouais, mais elle peut garantir aussi la justice entre.
Nous, c'est la communauté, il y a une justice, tu vois. Il y a des rabbins, c'est des juges.
Oui, là, du coup, on parlait des structures et des autorités religieuses, mais je me demandais qui, en fait, dominent, exercent un contrôle sur les croyants. Et tu citais tout à l'heure les prophètes et puis, du coup, les textes religieux. Est-ce que la Torah, ça, elle le montre bien, en fait, cette opposition entre prophètes et puis, justement, ces autorités et ces autorités religieuses, ces structures religieuses qui, justement, exercent un contrôle et dominent. Parce que dans le Coran, c'est vrai que c'est assez flagrant. Moi, je vois, quand je dis les versets, ça m'apparaît assez...
Il y a des passages
surtout,
virulents.
Surtout, particulièrement
clairs,
dans la Sirah, en fait. Dans la biographie, en fait.
Oui, nous, les clercs, à l'époque, c'était surtout les prêtres, les Kohanim du temple. Et les gens qui allaient abuser, tu vois, Dieu il fait dire au prophète à quoi me sert tous vos sacrifices, je veux dire, c'est... Encore une fois, les gens se perdent dans le littéralisme, tu vois, se perdent dans la forme, alors que ce qui est important, c'est le fond, c'est le sens, c'est la transformation, tu vois. Ça sert à rien d'aller sacrifier des bêtes si toi tu te changes pas. Le but, c'est que la bête, c'est à ton image, donc toi, c'est normalement toi qui devrais être égorgé, tu vois, c'est ton sang qui devrait couler là. Parce que tu as fait des bêtises.
Il y a un transfert de ta faute.
Et ouais. Donc maintenant, mais là, ça doit être transformé. Tu t'es dit, c'est moi qui aurais dû être là. Ah. Mais si tu fais genre comme ça, c'est comme le mec qui va, je sais pas, à la synagogue, il donne des millions comme ça en disant, ouais, ils vont prier pour moi, ça va me pardonner. Je continue à faire mes conneries.
Ça n'a pas d'urgence, quoi.
Oui, c'est ça. Non, ça n'existe pas. Donc les prophètes, ils sont contre ça. Ils ont beaucoup été aussi critiques des rois. Donc ça, c'est les structures de gouvernement, d'oppression. Ouais. En disant, nous, l'exemple du roi, quand même, c'est le roi juste. Tu vois, c'est le roi philosophe. C'est vraiment le roi des philosophes des Grecs, tu vois.
La République de Platon, en fait.
Voilà, exactement. Donc, nous, c'est vraiment. Il faut être vertueux. Et chaque personne, chaque rouage dans la société doit être vertueux parce que c'est lui les responsables. C'est pas la structure qui est. Non, toi, personnellement, tu dois être responsable. Donc, spirituellement, on doit exceller. Si tu dois être un roi, tu dois être un roi excellent. Si tu dois être un boulanger. Boulanger excellent, ça doit être un juge excellent. D'accord. Donc on doit être dans l'excellence. Ça, c'est les remontrances de nos prophètes ont été très longtemps sur ça. Et nos rabbins, tu vois, Ousnaït Arabanout, tu vois, Iran Rabina, c'est quand même fort, tu vois.
J'avais souvenir quand même pour David, d'un espèce d'anti-roi. On a l'impression que Samuel essaie de porter un peu que Dieu est réticent au fait d'avoir un roi.
Oui,
que,
bien sûr.
Que Samuel s'oppose beaucoup à son peuple à propos de ça, et que du coup David est un peu présenté comme un anti-héros, un anti-roi. Est-ce que toi tu as une lecture
c'est
comme ça?
C'est pas un anti-roi, ou... c'est un anti-Shaoul. C'est-à-dire que à l'époque les tribus elles étaient autocéphales, tu vois. Okay. Elles avaient ce qu'on appelle les shofetim, des juges à leur tête. Et donc les Israélites, les tribus se sont dit, mais on aimerait bien avoir un roi parce que les autres peuples autour de nous, ils ont un roi. Dieu a dit, vous savez pourquoi est-ce que vous demandez, hein, c'est-à-dire que, attention, tu vois, le roi, c'est les mecs qui ont l'abus de pouvoir.
Ouais.
Non, on veut un roi. Ah ben voilà, vous allez avoir un roi. Ils ont eu un roi qui a abusé de son pouvoir. Okay. Et donc à ce moment-là est venu le roi, dans l'optique messianique, c'est le roi prophète. Le roi qui est droit, et c'est le roi David, tu vois. Et David, il était anti-Shaoul, c'est-à-dire c'était le contraire de Shaoul. Shaoul, c'était pyramidal comme ça. David, c'était quelqu'un du peuple qui se mélangeait, tu vois, qui avait cette extase de servir Dieu, qui n'hésitait pas à danser comme ça devant le tabernacle et les choses comme ça. Et donc... Donc oui, et c'était quelqu'un qui allait au combat, il allait en premier rang, c'était quelqu'un qui était... Et c'est pour ça qu'il a eu la félicité, il écoutait les prophètes. Et donc il est devenu, donc c'est pour ça que Dieu lui a dit, voilà, il y a eu une lignée spéciale. C'est la promesse qui avait été faite à Judas, à Yehuda, que dans sa descendance, il y aurait ça. Voilà. Donc il y a le plan divin d'établir une royauté messianique et en même temps la demande du peuple d'avoir un roi comme tous les rois des nations. Et c'était ça en fait. Mais Dieu, il dit, moi, le roi que j'aurai sur vous, ce n'est pas un roi de toutes les nations, c'est un roi spécial. Ce n'est pas un despote. Mmh. C'est pas un despote pyramidal, tu vois, c'est quelqu'un qui est contraire, qui à la base, il porte toute la nation, c'est lui qui va nourrir tout le monde, c'est lui qui va aider tout le monde, c'est très différent quoi.
C'est parce qu'on se rend compte dans beaucoup dans la geste mohammedienne, sur ce qui se passe avec Jésus, parce qu'en fait là, c'est dans Matthieu 12, j'ai oublié, c'est 12-13, les versets 12-13, quand Jésus rentre dans le temple. Et qui en fait il renverse.
Vire les marchands du temple.
Vire les marchands du temple. En fait, il y a un côté très anticlérical aussi chez Jésus. Et aussi, souvent, il est comparé comme étant le premier anarchiste, souvent dans certains cercles, parce qu'il il attaque frontalement en fait les autorités temporelles et dites spirituelles. Quoi. En fait, en gros, les prêtres.
Oui, après, il attaque les perversions de la structure. Hein, ouais, c'est ça. Mais ça, en ça, c'est un bon rabbin, tu vois.
D'accord, donc tu dirais que là, pour le coup...
C'est complètement rabbinique. C'est complètement rabbinique. C'est dans tout à fait dans l'optique des rabbins qu'il y avait à l'époque de la Mishnah, tout ça. Voilà. C'était des gens, justement, très, très autogestion, avec une grosse distance critique vis-à-vis des institutions, dont l'institution du temple, qui était à leurs yeux un peu corrompue, tu vois. Pour les rabbins, il y a eu un seul grand prêtre ennemi, tu vois,
d'accord,
dans toute
ouais.
l'histoire du Second Temple, qui était vraiment honnête, droit, tu vois. Le reste, c'était des fonctionnaires, quoi. Fonctionnaires de la foi. Alors ouais. nous, on veut pas les fonctionnaires de la foi. Nous, on veut des vraies personnes qui incarnent la parole divine, qui incarnent la Torah.
Ouais, et dans la Torah continuité incarnée. Du coup du propos de Zacharie, pour bien comprendre, du coup, dans ta tradition, en tout cas séparade. La transformation de la société, elle passe par une réforme de l'individu.
C'est avant tout l'individu. Ça sert à rien de faire à l'envers. Mmh. Alors, c'est. Ouais, faut pas mettre la charia avant l'hébreu, tu vois. C'est-à-dire que. Il y avait un rabbin qui dans la Gemara, on dit, dans le Talmud, on dit. Ouais, donc il approche de la mort, il dit j'ai voulu changer mon pays, j'ai pas changé, j'ai voulu changer ma ville, j'ai pas changé ma famille, etc. Et à la fin il se dit mais parce que je m'étais pas changé moi-même. Ouais. Donc le changement, on commence par soi.
Ouais.
On commence par soi, on essaie de travailler sur ses passions, faire le bien, voilà, se perfectionner. Et en se perfectionnant, on élève la société parce qu'on va élever les gens qui sont autour de nous. C'est par cercle. C'est l'image qu'on donne, c'est comme une nappe, tu vois, une nappe. Quand tu pinces une nappe et tu élèves ce que tu pinces, ben toute la nappe, elle suit comme ça, tu vois.
Ouais.
Et c'est comme ça. Donc, chaque individu, il doit être... Voilà, on pince, il s'élève, et en s'élevant, de manière naturelle, c'est pas nous qui faisons, on fait rien, c'est Dieu qui fait.
Ce qui veut pas dire...
Tu vois. Donc, nous, toi, ce que tu dois faire, c'est le choix. Le choix, Dieu t'a dit, choisis le bien. Donc, nous, on choisit le bien.
Ouais.
Et par ce bien-là, Dieu, il fait que ça a une influence sur les gens, parce que ton exemple, par tes paroles, tes pensées, tes actions, ça va influencer les gens. Les gens, ils vont un petit peu comme des bougies qui s'allument la mèche du truc. Mmh. Tu vas allumer la mèche de Dieu, c'est Dieu qui allume. Tu vois, toi, tu fais rien. Toi, ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on est là. On calcule pas, on est au service. Fils Abelillah, tu vois, on fait les choses de manière gracieuse et gratuite. Et c'est Dieu qui change la société. Tu vois, nous, on fait rien. On n'a rien à faire.
Ce qui ne veut pas dire, s'attaquer aux structures, ce que nos collègues, nos camarades catholiques appellent les structures de péché, en gros, et de regarder les choses aussi de manière structurelle, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'individu, mais il y a un danger, surtout je pense que c'est pas ce que tu dis, mais dans beaucoup de discours de coaching actuels, il y a beaucoup, on renvoie tout à l'individu en disant, ok, en gros, vous êtes des cercles et on va vous faire rentrer dans des carrés, et en fait, en vous transformant, vous allez vous adapter en fait à ces sociétés malades. En fait, c'est pas ce que tu dis. C'est quand même avant.
Nous, la société, elle est malade. Nous, c'est juste que on essaie de guérir. On est des médicaments de la société en manière. Donc nous, on est des cercles, tu vois.
D'accord.
Et on s'intègre pas au carré.
D'accord. Ouais.
C'est-à-dire qu'on est dedans sans y être. Tu vois ce que je veux dire? On utilise ces structures-là parce qu'on y est de toute manière.
Ouais, ouais.
Mais je veux dire, on joue pas le jeu. Tu vois? Pour nous, c'est pas un but, c'est pas un truc. C'est juste un moyen. Bah, on est dedans, donc on fait ce qu'on peut. Et puis, si c'est trop perverti, on change de société. On s'en va, quoi. Il y a des choses, bah, on peut rien faire.
Et donc, est-ce que l'éthique individuelle, comme toi tu dis, on essaie d'élever un peu, de s'élever nous-mêmes et après ça s'entraide. Est-ce que ça n'amène pas justement à des formes d'entraide et de s'organiser, mais parfois aussi à un conflit avec ce que Zach appelait les structures de péché, quoi. Ah, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un cheminement qui part de l'individu?
C'est pas le conflit, il vient pas de nous, il vient pas de nous. Le conflit, il vient d'eux. Pourquoi? Parce que nous on les remet en cause.
Oui, quand tu bouges tes chaînes, en fait.
Tu vois, le fait que, par exemple, moi, je sois ici, je sois pas consistorial, je sois critique, je sois anti-sioniste, tu vois, je séfarade bien comme il faut, tu vois, je vais pas. Et donc.
Forcément, les structures vont se.
Je dénonce les abus de. Du consistoire, des trucs comme ça, la mafia, et donc évidemment c'est eux qui ont des problèmes avec moi. Moi j'ai pas de problème avec eux.
D'accord.
Moi je veux dire ce qu'on, le but c'est ce que ça revient à ce que je disais, l'effet Lilliput, c'est-à-dire que nous on fait nos petites structures et si tu veux on vide la force de ces systèmes là. Ouais. Ils se vident d'eux-mêmes, tu vois. Ils se vident d'eux-mêmes. Tiens, les gros systèmes, ce qu'on appelle en mystique la Kalipa. C'est l'écorce. L'écorce, elle se nourrit, elle pompe l'énergie des autres. Mais si tu attaques l'écorce, tu vas perdre ton énergie, en fait. Tu vas l'alimenter. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait les trucs de notre côté, et du coup, on n'alimente plus la clipa. La clipa, elle meurt d'elle-même. Tu vois, ça, c'est vraiment un principe dans la mystique. Et donc, c'est ce qu'on fait. Nous, on réseaute, on fait nos petits trucs complètement indépendamment de la structure.
Ouais.
La structure, elle va mourir d'elle-même. Il n'y a pas besoin, je cherche pas, il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a rien, c'est apprendre à défaire. C'est comme la transformation personnelle. Il ne faut rien faire, il faut défaire. Parce que c'est. En fait, Dieu, il a toujours été là, on a toujours l'étincelle divine en nous. Donc, toi, tu crois qu'il faut faire, Non, il n'y a rien à faire. Défais ton identification à l'ego. Plus tu le défais, plus. La lumière divine, elle transparaît, tu vois, elle a toujours été là. C'est toi qui as mis les voiles. Donc, défais les voiles, tu vois, il faut apprendre à défaire. C'est un petit peu, on a l'habitude toujours de faire, tu vois, parce qu'on fait, mais non, la hawla wa qulata illa billah. Donc, c'est-à-dire, de défait. Chez nous, on dit, il ne faut pas penser, kohi wa asam yadi asali tahay lazi. C'est mes mains et la force de. Ma force et la puissance de mes mains qui m'ont fait ces réalisations. Non, c'est Dieu qui fait la réalisation. Donc, pareil, nous, on déconstruit, on défait les choses. Donc, on défait, on enlève ce qui donne la puissance à ces structures-là. Et puis, ça se terminera de même. Et puis, il faut qu'on s'arrête là.
Parce que, juste pour finir, dans ce cas, est-ce que tu peux nous donner trois livres, je sais pas, qui t'ont marqué ou que tu conseillerais à lire?
Pour changer ta vie.
Peut-être au moins un livre à toi qui hormis la Torah, parce que sinon ça c'est de la triche, ou peut-être des grands, ouais, peut-être trois bouquins.
C'est compliqué parce que moi je l'ai en hébreu, tu vois, donc moi c'est des. Mais moi je dis, lisez les mystiques. Les mystiques, vraiment, ils ont une manière de comprendre les choses et tu sens vraiment que ce sont des gens qui mettent l'accent sur la responsabilité individuelle et la confiance dans l'être humain de sa responsabilité et de s'auto-organiser. Et ça, tous les mystiques, quels que soient les courants, tout ce qui parle de non-dualité, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, dans l'hindouisme, dans les trucs comme ça, c'est, voilà, tout ça sont vraiment des choses, des lectures qui nourrissent, parce que c'est la vérité vraie, c'est notre nature profonde. Et ça nous motive à nous changer, ça nous motive à se dire, ben ouais, c'est quoi? C'est que je vais vivre que pour moi-même, je vais m'endetter, je vais fuir dans le consumérisme, je vais en fait être un petit rouage dans ce mécanisme qui m'écrase, ou bien je vais être une lumière et je vais apporter les autres, je vais les transformer, je vais être un guérisseur, je vais amener la lumière divine pour les autres, tu vois?
Transcender, quoi.
Ah, c'est ça. Et en fait, on vit dans ce monde sans être de ce monde, tu vois? Et ça, tous les mystiques l'ont été, et c'est ça qui nous nourrit, en fait. C'est Dieu qui nous nourrit.
Faire un nouveau monde, peut-être.
Et le monde, il est en train d'être nouveau de toute manière. Il est toujours en train. Il y a toujours un ancien qui dit, ouais. Il y a toujours un nouveau. Maintenant, savoir est-ce que le nouveau, il sera un petit peu plus vivable, tu vois. Pour l'instant, on n'a pas l'impression. Mais tu vois, c'est comme tout est dans les mains de la providence divine. Nous, des fois, on a des visions très pessimistes, tu vois. Tu te dis, bah, c'est vrai qu'on va dans le mur. Après, tu sais pas comment les choses vont s'organiser, parce que si encore une fois l'humanité s'organise. La crise, elle passera sans problème, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Parce qu'il y aura de l'entraide, il y aura du partage, il y aura des trucs. Donc, la température, elle peut augmenter, le niveau de la mer, le truc, machin. On est ensemble, on peut s'en sortir. mais c'est vraiment tous ensemble, l'humanité ensemble, voilà, laisser toutes ces structures d'oppression et vraiment se baser sur la responsabilité personnelle et humaine, remettre l'être humain au centre. On s'en sort. S'il n'y a pas ça,
de toute façon,
on s'en sortira à long terme, mais à court terme, il y aura plusieurs milliards de morts, tu vois. Il y aura des grosses merdes, tu vois. Après, de toute manière, on s'en sortira, mais c'est dommage d'avoir des milliards de morts et de revenir en arrière, parce que ça peut se passer très bien. Et nos prophètes, c'est ce qu'ils ont dit. Les prophètes, il y a deux écoles dans les prophètes. Tu vois, il y a une école où ça se passe, il n'y a que des grands chamboulements, des machins, des trucs, et une école où ça se passe super bien, tu vois. Et donc, kehref aïn, comme on dit, comme là, un clin d'œil.
On est juste,
et alors, nos rabbins, ils disent, mais c'est quoi alors, ça va pas mal se passer ou ça va bien se passer? Elle me dit, ça dépend de toi.
Ouais.
Ça dépend de nous. Okay. Voilà, donc la balle, elle est dans notre camp, tu vois. De toute manière, à long terme, il y a un plan divin pour l'humanité.
Ouais.
Donc, mais on espère que ce long terme ne sera pas dans 1000 ans, tu vois. Ça peut être dans 50 ans, ça peut être dans 20 ans, ça peut être l'année prochaine. Donc, on agit pour que ce soit l'année prochaine, parce qu'on est incarné ici et maintenant. Donc, on agit ici et maintenant, avec l'espoir, toujours l'espoir, l'espérance. Sachant que, les gars, l'Aziz, on est sur le fil du rasoir. Ça dépend de nous tous. Donc, autant tomber du beau côté que du mauvais côté. Voilà, c'est ça. Sur ça, je finirai.
Là, je pense que c'est magnifique pour finir.
Oui, Dieu nous bénit ça.
ישקני מנשיקות פיום כי טובים מדודיך מיין לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן על עמות אהבוך מושכני אחריך נרוצם הביאני המלך הדרב נגילה ונשמח בך נזכינה דודיך מיין משרים אהבוכם, שחורני ונבם, בנות ירושלים, כי ההולה כדר, קריאות שלומום, עתירוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש ביניהם, עם מיני חרובים, צמוני נותרה את הקרמים, קרמי שלי לא נתרתי, הגידה לי, שאהבה נפשי, איך תראה, איכה תרבית בצהריים, שלמה יהיה כאותי על עדרי חבריך, אם לא תדעי לך יפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, וראי את כדיותייך על משכנות הרועים, לסוסתי בלכבי פרודי מתיך רעייתי, נבו לחייך בתורים, צווארך בחרוזים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, עד שהמלך במסיבו נרדי, נתן רחום, צרון המור דודי לי, בנשדה ילין, אשכול הכופר.